Marie de Henzel, bonsoir.
Bonsoir.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci bonsoir de nous avoir rejoints pour cet échange avec Marie de Henzel, donc autour de son dernier livre, L'aventure de vieillir. Alors, je suis sûr que beaucoup de personnes ici présentes vous connaissent. Bon, pour ceux qui découvrent, je rappelle que vous êtes psychologue, clinicienne. Vous êtes très connue pour vos travaux sur... je dirais, notre rapport au temps, notre rapport à l'âge, notre rapport au vieillissement. Je crois que c'est de ça qu'il est question ce soir. Vous publiez aux éditions Robert Laffont un petit livre, mais très dense, bien construit, dans lequel vous allez nous raconter, vous nous expliquer à la fois que la vieillesse, prendre de l'âge, devenir vieux, ce n'est pas un naufrage. En tout cas, ça ne doit pas l'être. Ça peut ne pas l'être. Ça ne doit pas l'être. Et vous allez vous expliquer qu'au contraire, vieillir, écoutez, ça présente un certain nombre de caractéristiques, un certain nombre d'avantages aussi. Et oui, un certain nombre d'avantages, un nombre de caractéristiques, à condition de, évidemment, de bien s'y préparer et de faire, finalement, d'appliquer quelques règles qu'on pourrait appeler les règles du bien vieillir. Voilà. Alors, ce livre donc est un peu un manifeste, on va dire, un manifeste dans lequel vous posez un petit peu en contre-pied, vous prenez le contre-pied, je dirais, d'une certaine vision de la vieillesse que vous estimez non seulement fausse, mais aussi dommageable, dommageable pour les personnes elles-mêmes, mais aussi pour la société tout entière, qui en fait, en ne comprenant pas ce que sont les avantages, les vertus, les chances de la vieillesse, eh bien, au fond, se tire une balle dans le pied parce que ça provoque un déséquilibre. Un déséquilibre qui a des conséquences assez graves. Voilà. Donc, j'aimerais d'abord vous demander, Marie de Henzel, après vous avoir remercié d'être là pour nous éclairer, quelle est l'origine de ce livre, parce que en fait, il a une origine bien précise que vous allez nous expliquer. Hein. C'est un livre qui vient de loin.
Alors, effectivement, j'avais, il y a, je dirais, plus de 15 ans, j'avais été invitée à faire une conférence dans le cadre d'une conférence avec la question comment accepter de vieillir ? Et à l'époque, je ne m'étais pas du tout intéressée à la question, je m'étais intéressée qu'à la question de la fin de vie. Et il y avait Jean-Denis Bredin de l'Académie française, il y avait Paul-Laurent Assoul, un psychanalyste. Et puis, donc, je m'étais penchée sur la question et j'étais tombée sur l'expérience qui se passe au Japon, des centenaires de l'île d'Okinawa, qui sont... le Japon est une zone bleue, hein, il y a la densité de centenaires en forme, en très bonne forme, qui vit là-bas. Et les générations plus jeunes disent d'eux que ce sont des trésors et des porte-bonheur. Et j'avais été vraiment surprise de ça. Je m'étais dit, ben, on en est loin ici. Et donc, ça a été l'origine de mon premier livre sur la question, La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller. Puis ensuite, j'ai écrit toute une série de livres, tout en animant des groupes de parole, puisque ces livres ont attiré l'attention d'une part d'une mutuelle, la mutuelle des journalistes, du spectacle, de l'audiovisuel et de la presse, et qui m'a demandé d'animer des séminaires sur l'art de vieillir. Et ça fait une quinzaine d'années que je fais ça, pour des gens qui ont entre, je dirais, 60 et 75 ans, à peu près. Et puis, un groupe de résidence-service, autonomie, c'est-à-dire que c'est pas des EHPAD, hein, c'est des résidences-services où les gens sont chez eux, et en même temps, avec toute une palette d'animations, et ils y vont pour la sécurité, ils y vont pour la convivialité, et ils y vont avec l'intention de rester autonomes le plus longtemps possible. Et là, le directeur m'a dit, mais j'ai lu vos livres, mais vous avez une image tellement différente de celle que donne ce qu'on a dans notre société. Qu'est-ce que vous en pensez si vous collaboriez avec nous? J'ai dit oui, mais alors, ce que je vous propose, c'est un groupe de parole de personnes qui ont entre 80 et 100 ans, parce que je pense que si ces personnes sont invitées à prendre la parole, non pas pour se plaindre et se lamenter, parce que ce n'était pas du tout ça l'objectif, mais pour nous partager entre eux ce qu'ils vivent d'heureux, alors c'est les trois mots qu'il y a tout le temps dans mon livre, heureux, fécond, intéressant. Eh bien, je lui ai dit, je pense qu'en parlant ensemble, ces personnes, ceux qui ont déjà compris ça, vont contaminer les autres, qui sont peut-être, se demandent si c'est vraiment une bonne chose de vieillir, si c'est vraiment une chance, si c'est... Parce que en parlant de ça, ils vont justement permettre à d'autres de retrouver l'estime d'eux-mêmes. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'après 8 séances comme ça de ce groupe de parole, les personnes sortent avec, elles retrouvent l'estime d'elles-mêmes. Et vous le savez sans doute que la perte d'autonomie, bien sûr, ça peut être lié à un accident, ça peut, bien sûr, à une maladie, mais pas seulement, c'est dans la tête. C'est un état d'esprit quand on a l'impression qu'il n'y a plus rien d'intéressant à vivre, plus rien d'heureux, que tout est derrière soi, qu'il n'y a plus qu'à attendre péniblement la mort. Eh bien, que font les personnes? Eh bien, vous les voyez, elles se courbent, elles se penchent, elles baissent les bras, elles sont déprimées. Et c'est la voie ouverte à la perte d'autonomie. Donc, ce directeur m'a dit, ben voilà, on va leur donner la parole. Et c'est ce que j'ai fait dans un certain nombre de résidences. Et puis, j'ai formé des psychologues à ma manière de travailler.
Alors, donc, on a compris, c'est un livre qui est fondé sur des, donc, ces groupes de parole, donc oui. Deux séries de groupes de parole. Ça a duré assez longtemps, parce que vous m'avez dit tout à l'heure que oui. C'est un travail qui a déjà une bonne dizaine d'années.
Plus, presque.
Donc oui. Ça veut dire que vous avez, dans ce livre assez mince, mais donc, qui concentre... Hein, oui. Un peu les meilleurs passages de tous ces témoignages, de ces confessions, parce qu'il y a des formes de confessions, c'est-à-dire que dans votre démarche, évidemment, il s'agit aussi de mettre les personnes en confiance, de les amener sur un certain terrain, dans un certain registre, pour faire finalement émerger des choses qui d'habitude restent enfouies. Oui. Alors il y a beaucoup de citations dans le livre, souvent qui commencent les paragraphes. Il y en a donc oui. je vais peut-être en citer une ou deux pour montrer un peu de quoi il s'agit. Je vois par exemple cette citation, je vis un paradoxe, plaisir de vivre, tristesse que la fin approche. Vieillir est une inconnue, tout se délite et en même temps s'ouvre un espace de grâce. Voilà, déjà des pensionnaires qui vous disent ça, des personnes âgées qui vous disent ça. Ou alors cette phrase d'une auteure, Barbara Pola, qui a écrit un livre qui s'appelle « Femme hors norme » et qui dit « Restez jeune, ce n'est pas seulement un impératif irréaliste, c'est un impératif imbécile. Pourquoi vouloir rester quelque chose? Devenir est plus intéressant à condition de faire mentir l'adage qui veut que vieillir soit une défaite de soi pour en faire une construction. » Alors un peu, je dirais peut-être cette citation, elle est intéressante parce que elle montre un peu le sens de la démarche que vous proposez et ce que vous essayez de faire émerger, c'est qu'au fond, on n'est pas dans une sorte de chute, on est plutôt dans un avènement, dans une montée, à condition évidemment de savoir de ce qu'on met derrière. Alors quand on dit que vieillir c'est une aventure, c'est un voyage, c'est un avènement, qu'est-ce que les gens veulent dire exactement?
Une aventure, quand on va à l'aventure, on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est une inconnue, l'aventure. Hein. Donc c'est vrai, de la vieillesse, du vieillir aussi. Hein. Mais une aventure, quand on a l'esprit d'aventure, on est ouvert au nouveau. Hein. On va découvrir des choses. Et c'est ça que j'ai entendu pendant 15 ans, les découvertes que les personnes font. Alors bien sûr, il y a une règle, une clé très importante qu'il faut comprendre, ce que disent les premières citations que vous avez dites, c'est-à-dire le paradoxe du vieillir. Bien sûr, le corps décline. On ne va pas se raconter d'histoire. Moi, je vais vous dire mon âge, j'ai 76 ans. Je ne fais plus à 76 ans ce que je faisais à 56 ans. C'est vrai. Le corps décline. D'abord... Moi, j'ai rencontré des gens de plus de 90 ans qui sont encore debout, hein, qui marchent, qui sont autonomes. Donc, c'est pas du tout une fatalité de perdre son autonomie. Et puis, le corps décline, mais alors, Dans ce paradoxe, on voit bien qu'il y a le cœur et l'esprit ne sont pas destinés à diminuer, à vieillir. Il y a beaucoup de choses qui ne vieillissent pas, mais qui, au contraire, se développent. Par exemple, la perception. Les gens de 90 ans voient des choses qu'ils ne voyaient pas plus jeunes. Ils perçoivent infiniment mieux. Il y a une sensibilité. Le cœur, évidemment, n'est pas destiné à vieillir. Le cœur, l'organe peut-être, mais la faculté d'aimer, d'être aimé, d'ouvrir son cœur, comme on dit, d'être bienveillant, c'est au contraire quelque chose qui peut, au contraire, grandir.
On dit parfois qu'il a tendance à s'endurcir, mais il peut aussi. Mais c'est pas du tout ce que vous racontez.
Non, chez certains, bien sûr. Chez certains, il s'endurcit. Mais chez d'autres, au contraire, il s'ouvre. La curiosité ne diminue pas, bien sûr, sauf... Alors, évidemment, les personnes qui refusent la perspective de vieillir se referment, se replient, durcissent leur cœur, ferment leur esprit. Ça, oui, on connaît cette vieillesse-là. C'est justement pour éviter cette vieillesse-là que j'alerte sur les clés qui permettent justement d'avoir une jeunesse du cœur et de l'esprit, et puisque je l'ai rencontré. Et vous savez quand dans ces groupes de parole, je fais un exercice, je demande aux gens leur âge chronologique, et ensuite leur âge subjectif. Toutes les personnes ont au moins 20 ans de moins. Et même dans un groupe, une personne de 92 ans a dit « Moi, madame, j'ai 15 ans ». Alors je me suis dit « Bon... » Elle exagère, celle-là. Eh bien, après 8 séances, je peux vous dire que non, elle avait bien 15 ans. C'est-à-dire qu'elle avait un esprit d'une fraîcheur, une envie de découvrir des tas de choses. Elle, ce que d'ailleurs dit aussi Benoît de Groult, quand elle ouvre ses volets le matin et qu'elle dit qu'elle accueille le jour nouveau, et que, voilà, elle est curieuse de la journée. Cette femme de 92 ans qui disait qu'elle avait 15 ans intérieurement, ben je me suis dit, elle a raison. Elle avait une espèce de jeunesse, de fraîcheur qui m'a beaucoup, beaucoup étonnée et en même temps appris. Parce que justement, tout ce que je raconte, c'est pas sorti de ma tête. C'est sorti de tout ce que j'ai entendu au fil des années.
Vous parlez de Benoît de Groult, vous la citez souvent. Oui. C'est souvent, donc je n'ai pas relevé à chaque fois les occurrences, oui. Mais là, par exemple, à la page 37, il y a cette phrase, une confidence qu'elle vous... Je ne sais pas si elle vous l'a faite à vous ou une confidence qu'elle a faite à un auditoire, mais oui. Dans un livre, elle dit « Je découvre la richesse des voyages immobiles oui. ». C'est joli d'abord, c'est beau la richesse des voyages immobiles. Oui. Alors bon, ça signifie évidemment qu'on ne peut pas courir comme un lapin à son âge. Mais cela dit, le voyage immobile, qu'est-ce que vous pensez qu'elle signifiait par là? Est-ce que c'était les films qu'elle se passe dans sa tête, les rêves qu'elle développe, les souvenirs qu'elle enchaîne?
Les souvenirs, effectivement. Elle a fait beaucoup, beaucoup de voyages dans sa vie et tout ça est en elle. C'est-à-dire, tout ça est en elle et tout ça est susceptible aussi de lui donner de la joie, d'avoir vécu cela. Parce que vous savez que quand on parle de... moi, j'aime bien Spinoza quand il dit « Nous expérimentons que nous sommes éternels ». C'est-à-dire que les souvenirs de choses que nous avons vécues dans la vie, même très longtemps, même peut-être même dans notre enfance, tout ça est là en nous. Pourquoi ? Parce que nous avons... notre peau a une mémoire. Nous avons tout enregistré, toutes ces émotions. Nous avons une mémoire émotionnelle qui est au niveau de notre peau. Une personne, c'est d'ailleurs, je signale aussi pour ceux qui auraient envie d'en savoir plus, le livre de Jacqueline de Romilly, Les révélations de la mémoire, dans lequel elle dit qu'à 98 ans, dans son fauteuil, elle ne peut plus aussi se lever, elle est, et puis presque aveugle, eh bien, tous ses souvenirs reviennent et elle les vit comme si elle venait de les vivre. Et elle dit, c'est peut-être ça l'éternité, parce que Spinoza disait que c'était vraiment tous ces moments vécus dont personne ne pourra jamais faire qu'on les ait pas vécus.
Je n'ai pas été étonné, mais j'ai remarqué que vous n'aviez pas cité Marcel Proust, dont nous fêtons, nous fêtons l'anniversaire donc cette année. Mais évidemment, bon, certes, il n'est pas mort très vieux. Il est mort. Il avait 52 ans, donc c'était. Il n'avait pas eu le temps. Il n'avait même pas l'âge des personnes à qui vous destinez ce livre, et qui sont plus jeunes que les personnes qui témoignent.
Mais enfin, 52 ans à l'époque de Proust, c'était comme 75 ans aujourd'hui.
Hein. Voilà. C'est-à-dire ce que vous dites au début. Vous dites finalement à destination des baby-boomers dont vous faites partie, hein, je vous dis que je suis une baby-boomer, à destination de ces baby-boomers, vous leur dites, bon, d'accord, vous avancez en âge, mais sachez quand même que, rappelez-vous, que la vieillesse que vous êtes en train de vivre, ou que vous commencez à vivre, ou que vous vivrez, n'est pas du tout celle qu'ont vécu vos arrière-grands-parents ou vos grands-parents. Alors évidemment, c'était un des avantages que vous soulignez à gros traits, hein, ce bénéfice du baby-boom qui nous donne évidemment une bonne santé qui peut se prolonger assez loin.
Dont il faut prendre soin, parce que c'est aussi une des clés. C'est-à-dire que comme j'ai écrit ce livre plutôt pour les sexagénaires, hein, c'est 60-70 ans, pour préparer justement, je crois qu'on a une responsabilité dans le prendre soin de son corps, bien sûr, et de son esprit. Il faut en prendre soin.
Alors le livre n'est pas un livre de développement personnel, hein, et de recettes de recettes. Par contre, mais quand même, vous développez un certain nombre de conseils, hein, de préceptes sur ce bien vieillir, c'est-à-dire cette préparation qui peut durer longtemps, hein, cette préparation à arriver dans l'âge où justement on commence à devoir en rabattre un peu sur ses possibilités physiques, peut-être même cognitives parfois quand même. Donc à ce moment-là, quels sont les grands préceptes à ne pas oublier, d'aborder cette nouvelle étape de la vie dans les meilleures conditions. Il y a plusieurs choses. Alors peut-être vous pouvez nous en énoncer quelques-unes.
Oui. Alors bon, donc accepter le paradoxe du vieillir, c'est sûr. Je pense qu'il faut aussi regarder ses peurs en face. Identifier les peurs que l'on a, réfléchir en termes de prévention, parce qu'on peut prévenir des choses, faire des choses qui évitent d'être dans des situations qui nous font peur. On débat de tout ça dans mes groupes. Il faut aussi réfléchir, si jamais ce qui nous fait peur nous arrive, sur quelles ressources internes on peut s'appuyer pour que ça ne soit pas une catastrophe. Ça amène effectivement à réfléchir à justement nos ressources internes, notre intériorité. Hein. Apprendre, c'est peut-être l'époque aussi, le vieillir, où on va découvrir qui on est vraiment. Hein, parce qu'on n'a peut-être pas eu le temps dans une vie active dans laquelle on a beaucoup de responsabilités. On voyage à l'intérieur de soi pour découvrir qui on est vraiment. Découvrir le fil rouge de sa vie, tout ce qui a donné du sens. Ça invite aussi à se mettre, ce que je dis, mettre en paix avec la question de la mort, la question aussi de sa propre vie. Hein, c'est essayer de bien repérer ce qui est important, puisque plus on avance en âge aussi, plus on vieillit, plus on s'approche de la mort. Donc il ne faut pas écarter la question de la mort. Il faut non pas y réfléchir de façon morbide, c'est pas ça, mais de se dire, ben oui, je suis comme tout le monde, je suis mortel, je suis pas éternel, donc qu'est-ce qui importe vraiment, hein, c'est important, de façon à s'alléger, c'est-à-dire à être au fond le plus léger possible. Il y a aussi beaucoup d'émotions négatives que l'on a peut-être accumulé dans ce que j'appelle des valises, que l'on traîne derrière soi, remplies de remords, de rancunes, de regrets, de culpabilité. Il faut alléger tout ça, parce que c'est vrai qu'une personne, et je l'ai vu moi aussi dans les EHPAD, des personnes qui traînent des choses très très lourdes du passé, ce sont des personnes qui sont malheureuses dans leur grand âge et qui sont même deviennent un peu paranoïaque, elle voit le mal partout, parce que il y a une projection de ces émotions négatives. Donc je crois qu'on a vraiment, on a le temps d'ailleurs, et je pense que c'est quand on entre dans cet âge, disons 60 ans, 70, de faire un peu du ménage dans sa vie.
Vous parlez, vous employez l'expression de déposer ses valises, hein, je crois.
Oui. les vider.
Et puis, vider ou déposer ses valises.
Oui, les alléger, voilà.
D'alléger. Oui. Alors ça peut se faire, par des groupes de parole, comme vous l'avez fait avec ces personnes, qui ont eu de la chance, finalement, de pouvoir, pouvoir le faire avec vous. Évidemment, souvent, il faut le faire soit en famille, soit seul, soit peut-être aller voir un
psy.
Aller voir un psy. Vous êtes psychologue clinicienne, vous n'allez pas les décourager d'aller aussi chez le psy, même si on n'a pas un problème, comment dirais-je, massif, immédiat, mais finalement, pour faire un travail préparatoire de longue haleine vers ce que...
On peut aller,
cet horizon-là.
On peut traiter une question en peu de séances si vraiment on sent que c'est un obstacle au sentiment d'être léger. Des thérapies courtes existent aujourd'hui. Moi, je suis psychanalyste, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de collègues psy qui reçoivent pour un travail particulier sur une question particulière, et on s'allonge plus sur un divan pendant 12 ans, comme on faisait du temps où j'ai fait ma propre psychanalyse. Donc, il y a ça, bien sûr, et puis on discute ensemble de toutes les façons que l'on a de pouvoir s'alléger.
Rien que le fait de faire la démarche, c'est déjà très bien. C'est-à-dire que déjà se poser la question, se dire, voilà, il y a peut-être quelque chose qui pourrait m'aider. Alors ça va durer un peu, ça va pas durer, mais en tout cas, faire la démarche, c'est déjà... Oui. Alors vous avez cité la faire face à la mort quand même. C'est notre souci à tous. Soit on se cache... On se cache, soit on la regarde en face, soit on y pense tous les jours. Mais évidemment, c'est la pensée de derrière, toujours. Alors, vous citez un psychanalyste qui s'appelle Michel Duzan qui parle de faire le travail du trépas. Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement par le travail du trépas?
Alors ça, j'ai beaucoup écrit là-dessus dans mes livres sur la fin de vie. C'est le travail qu'on accomplit quand on sait qu'on va mourir. On le pressent. Et c'est un regain d'énergie qui arrive, alors qui est très surprenant, parce que les gens sont généralement très fatigués, très usés. Tout d'un coup, il y a un regain d'énergie, il dit une appétence relationnelle, au service d'un dernier travail qui va être de dire au revoir à ses proches, de laisser une parole qui va boucler la relation. Ça peut être même... très simple, ça peut être un geste, ça peut être un regard, mais c'est ce qui va permettre de mourir serein, en sachant qu'on a laissé à ceux qui restent quelque chose qui est l'essentiel de sa vie, généralement c'est beaucoup des paroles d'amour, c'est ce que j'ai observé moi dans les années où j'accompagnais c'est beaucoup des paroles d'amour, d'encouragement, des paroles qui la semaine dernière, je signais ce livre à Bruxelles et quelqu'un est venu me voir en me disant, vous savez, mon mari est mort il y a quelques mois et il m'a dit en partant, justement, ses dernières paroles, c'est « Tu sais, je serai toujours là près de toi ». Voilà, ça, c'est le travail du trépas. Cet homme peut mourir serein parce qu'il a dit cela et il fait un cadeau aussi énorme à sa femme qui est qu'elle sait que voilà il ne l'abandonne pas dans l'invisible, il sera là, il sera voilà. C'est ce genre de parole que de Muzan disait que cette énergie qui arrive à la fin, encore une fois surprenante, elle est au service de cela.
Donc en fait, vous nous encouragez à regarder donc notamment ces derniers instants, ce moment où évidemment on va passer d'un monde à un autre, et où il faut dire au revoir au monde que l'on quitte. Oui. Ça c'est très important. Ça existe dans notre civilisation. Il y a comme des gens qui en parlent, il y a des gens qui le pratiquent. Après, vous nous emmenez aussi un petit peu ailleurs. C'est-à-dire, par exemple, vous emmenez en Asie. Vous avez parlé tout à l'heure du Japon. Vous avez parlé des centenaires d'Okinawa, donc cette île où vivent beaucoup de centenaires et des centenaires qui vivent plutôt en bonne santé. Et alors vous dites, on se rend compte que les points communs de ces centenaires en bonne santé et leur mode d'alimentation et les activités qu'ils continuent d'exercer, la marche, le chant, le jardinage, la gymnastique douce ou énergétique. Alors vous citez le tai chi, et puis aussi la marche en forêt qui s'appelle le shirin yoku. Une sorte de sylvothérapie à la nippone. Alors, bon, ça, vous avez trouvé pas mal d'inspiration dans cette civilisation japonaise. Et j'ajoute aussi que vous avez dans vos groupes de parole pratiqué avec les pensionnaires, l'art du haïku.
Alors voilà, oui. Voilà.
Alors expliquez-nous, parce que donc le haïku, ce sont ces tout petits poèmes de trois lignes, hein, oui. de quelques syllabes, oui. où on concentre finalement une vision, une expérience, un désir. Alors expliquez-nous un peu le rapport entre toutes ces, choses.
Vous faites une très belle définition du haïku, c'est vrai. Alors c'est quelque chose que j'ai introduit il n'y a pas très longtemps, parce que c'est une journaliste du Figaro Santé, Pascal Cinq, qui a écrit beaucoup sur les haïkus et qui est haïkiste, qui m'a fait découvrir cela. Et je me suis dit, mais au fond, les personnes qui vieillissent et qui ont cette tendance à tout voir en noir, à voir toujours le verre à moitié vide, eh bien, apprenons-leur à faire des petits poèmes, et tout le monde peut en faire, hein, des petits poèmes qui permettent de traduire en trois lignes, 17 pieds, une émotion, quelque chose qu'on a vu, qu'on a trouvé beau, une émotion de la journée, de façon orienter leur esprit vers l'observation de choses qui font du bien. Et c'est une pratique de l'instant présent. Eh bien, je vais vous dire, dans tous les groupes de parole que j'ai fait, d'abord, tout le monde peut en faire, et beaucoup ont adopté cette pratique, et même achètent un petit cahier de haïku, et font des haïkus, un haïku par jour. Alors, en plus, ça se partage avec les autres. On peut s'envoyer des haïkus par mail ou par SMS ou par
c'est formidable, ça dépasse pas les 140 signes. Hein.
c'est une façon de partager une émotion avec d'autres. Ça peut même, moi j'ai une petite fille avec laquelle j'échange des haïkus aussi. C'est un mode de communication aussi.
Je tombe page 79 sur un haïku là par exemple. Il dit sans savoir pourquoi. J'aime ce monde où nous venons pour mourir.
Oui.
Vous l'aimez celui-là?
Ah oui.
Vous l'avez mis en haut.
Non, il est très beau. Non, je le trouve très beau. Oui.
Faudrait que je les retrouve. Il y en a d'autres. Hein.
C'est un.
Les gens que vous avez initiés, donc ont tout de suite compris ce que le bien que ça pouvait leur faire.
Ah oui, ils ont. Enfin, je peux pas dire tout le monde, mais beaucoup adoptent ça. Et même, je vais vous dire une chose, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui font... C'est une chose que je voudrais vous dire quand même, qui est propre à, je crois, ce que j'ai découvert, c'est que quand les gens d'une même génération parlent ensemble, eh bien, ils se créent une amitié qui n'est pas fondée sur de l'occupationnel, mais sur le fait qu'on partage quelque chose de son intériorité, d'intime, de personnel. Et ces groupes... Même les séminaires audience, hein, c'est une fois qu'ils se quittent, ils ont leur téléphone et ils créent un groupe WhatsApp et ils échangent des haïkus. Donc ils se donnent des nouvelles à travers les haïkus. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette solidarité, vous voyez, à l'intérieur d'une génération dans laquelle on va parler de ce qu'on vit d'heureux, de fécond, d'intéressant, ça me semble très important. Parce que c'est comme ça qu'ils vont garder aussi la joie de vivre, qu'ils vont garder aussi un intérêt pour la vie, quand ils peuvent partager avec d'autres. Et cette forme de solidarité, elle est nouvelle. Parce qu'on a beaucoup parlé de la solidarité intergénérationnelle. Beaucoup de gens de ma génération se rendent compte qu'elle se délite. Les enfants, souvent, sont pas présents, sont ailleurs, vivent loin... Ils ont besoin de cette solidarité à l'intérieur de la même génération. Et ça, c'est nouveau. On n'en parle pas beaucoup.
Avec de nouvelles formules, d'ailleurs.
Les béguinages solidaires.
Vous appelez ça les béguinages. Peut-être dites un mot de quoi il s'agit.
Alors, surtout que c'est mon prochain livre, l'année prochaine.
Ah bon, alors, il ne faut pas le dévoiler tout de suite.
Non, mais j'écrirai un livre qui s'appelle « Vieillir solidaire », que je fais avec le président des béguinages solidaires. Et c'est une formule que je trouve... qui correspond à ce que souhaite ma génération, c'est-à-dire on n'a pas du tout envie de terminer dans un EHPAD, c'est clair, surtout avec tout ce que nous avons entendu et le livre Les Fossoyeurs et tout. Mais on voit émerger des solutions qui sont beaucoup plus à taille humaine. Par exemple, dans un hôtel particulier restauré, 20 petits logements où chacun est chez soi, mais en même temps on vieillit ensemble, on a des activités comme les centenaires d'Okinawa, des activités qu'on va choisir ensemble. Et ce qui est intéressant dans ce concept des béguinages solidaires, c'est que un an et demi avant d'habiter ensemble, les gens se réunissent une fois par mois, donc ça fait 18 séances dans lesquelles ils parlent de ce qu'ils veulent vivre ensemble. Ils se connaissent et ils parlent même de ce qu'ils feront si certains d'entre eux perdent leur autonomie. Est-ce qu'on va l'envoyer dans un EHPAD ou est-ce qu'on le garde? Eh bien, ils ont décidé de garder, en s'appuyant bien sûr sur les soins à domicile qui existent, les soins palliatifs à domicile, mais tout ce qui est présence, tout ce qui est, vous voyez, la chaleur humaine qu'on peut se donner les uns aux autres, ils ont décidé de garder avec eux ceux qui deviendraient plus fragiles, plus vulnérables.
Alors, donc, vous êtes en train de repérer, donc, à travers le pays, donc, les expériences pour les analyser, pour les présenter au public.
Oui, c'est le prochain livre, ça sera là-dessus.
D'accord, une enquête sur les béguinages,
sur ces formules de solidarité à l'intérieur d'une même génération, hein, qui est fondée, encore une fois, sur la parole, et une parole qui n'est pas... Il ne s'agit pas de parler de la pluie et du beau temps, parler de choses qui vraiment nous intéressent profondément.
Alors il y a dans le vieillissement et dans le grand âge un grand problème qui est le problème de l'isolement. Hein, oui. L'isolement que vous distinguez d'ailleurs de la solitude, hein, parce que c'est pas la même chose. Hein. Mmh. La solitude peut être consentie, peut être parfois même féconde, hein, ça dépend.
Et bien vécue.
Bien vécue, ce qui n'est pas le cas de l'isolement, qui lui est une solitude subie, et qui est donc un facteur évidemment de mal vieillir. Hein. Vous montrez combien ça peut être dommageable pour le psychisme de l'individu, pour ses relations sociales, et donc in fine pour sa santé, sa confiance dans la vie. Oui. Alors c'est un problème. Je dirais social, sociétal, qui n'est pas facile de combattre. Hein. Bon, vous avez parlé de ces béguinages, mais enfin bon, la plupart des personnes évidemment âgées qui perdent peu à peu leurs amis, dont les familles se distendent, etc., sont souvent amenées à vivre seules. Oui. Alors évidemment, donc ça c'est une réalité quand même assez massive, je pense.
Oui. D'ailleurs, je cite cette étude ce rapport des petits frères des pauvres qui montre que. Il y a 700 000 personnes pendant le confinement. Il y a eu 700 000 personnes qui n'ont vu personne. Il y a vraiment l'isolement, c'est une réalité dans notre pays. C'est un poison. Il faut savoir qu'une personne isolée a deux fois plus de risques de perdre son autonomie, justement. Donc, il faut absolument que notre société, et elle y travaille de toute façon, développe tout ce qui permet justement de rompre cet isolement, qui est très différent de la solitude, parce qu'effectivement, la solitude... Alors, j'annonce aussi qu'en 2024, j'écrirai le dictionnaire amoureux de la solitude pour Plon.
Ah, ça y est, vous avez été recruté par Plon pour ce nouvel opus. D'accord.
Amoureux de la... Et là, évidemment, la solitude, c'est quelque chose qu'on vit de plus en plus en vieillissant. Et c'est ontologique, hein, c'est propre à la nature humaine. Ça peut être bien vécu. Et là, encore une fois, c'est bien vécu si on a une vie intérieure riche aussi. Hein, si on a appris aussi à ce qui nous fait du bien. Parce que dans ce voyage vers l'intériorité, il faut repérer ce qui donne la joie de vivre. Et ce n'est pas la même joie pour chacun. Chacun a des sources de joie. Il faut nourrir aussi cette intériorité, cette réflexion. Les gens que je rencontre sont des gens qui me disent « Mais moi, je peux être seul une bonne partie de la journée et être bien dans cette solitude à condition de pouvoir partager. » C'est-à-dire qu'il faut aussi des temps de partage, donc de convivialité. Et c'est à ce moment-là que la solitude est bien vécue.
Je pense pour votre dictionnaire à ce très bel air d'Henri Purcell qui s'appelle Solitude, My Sweetest Choice. Oui. Il faut que vous écoutiez ça. C'est toujours magnifique. Oui. Bon, la solitude peut être un très beau choix, mais évidemment, c'est formidable si ça n'est pas la seule réalité de votre vie. Si c'est entrecoupé aussi par ces échanges qui permettent de la nourrir.
Il faut du partage, bien sûr. Et les gens qui vivent bien leur solitude sont des gens souvent qui ont aussi beaucoup d'amis. hein, qui ont c'est parce que vous le savez aussi, tout le monde le sait, quand quelqu'un vit mal sa solitude et qu'il est tout le temps à chercher à combler sa solitude, ça devient un poids pour les autres. Donc en fait, plus on vit bien sa solitude et plus on a d'amis, parce que on sent que les amitiés ne sont pas là pour combler quelque chose, mais pour enrichir, ce qui est très différent. Hein, pour, comme disait Jacquard, Albert Jacquard, tant que je peux continuer à m'enrichir au contact des autres et enrichir les autres, je ne suis pas un être trop vieux. Je suis vieux au sens africain du mot, quelqu'un vers qui on va comme vers une source.
Comme vers une source. Vous citez cette citation qui est très belle.
C'est une superbe définition de la vieillesse par Albert Jacquard.
Voilà. Vous auriez pu développer sur la conception africaine des rapports entre les, oui, entre les générations et donc et sur le fait que souvent, hein, dans les sociétés africaines, en tout cas traditionnelles, oui, les vieilles personnes sont extrêmement respectées, justement, oui, pour cette raison qu'elles portent la mémoire, qu'elles sont, oui, voilà, qu'elles sont une ressource, et c'est de façon très naturelle. Donc, c'est pas tout à fait le cas actuellement dans une société, mais il faudrait évidemment revenir à de telles idées. Alors, il y a des choses, il, oui, y a d'autres. Oui. Vous mettez en valeur, hein, la vieillesse en disant voilà, elle a ses chances, elle a ses avantages. Bon, il y en a une qu'on connaît, qu'on cite souvent, même si c'est un peu, ça peut être un mantra, pour avoir parfois un slogan. On dit quand on est vieux, on devient sage. C'est vraiment, oui, là, c'est ce qui est formidable dans la vieillesse, c'est la sagesse que l'on acquiert. Bon, déjà, il faut l'acquérir, mais alors il y a une autrice que vous citez qui s'appelle Paul Giron. Mm-hmm. Hein, normalement, c'est des petites citations. La vieillesse est une autre respiration, plus lente et propice à une invitée que l'on ne connaissait pas, la sagesse. Ah, la sagesse. Alors, oui, bon, ça c'est quand même quelque chose sur lequel on peut compter. Est-ce que tout le monde, devenant vieux, devient sage, peut devenir sage?
Non. Ce que je voudrais dire, non, parce que c'est un paradoxe. Il y en a qui disent, et d'ailleurs, je suis marraine d'une association qui est de gens à la retraite qui s'appelle Pas si sage. Bon. C'est aussi, on dit aussi que justement il y a une liberté, une grande liberté qui fait qu'on peut-être on se permet des choses qu'on se permettait pas avant. Donc c'est un paradoxe. On peut être aussi un peu fou, hein, en vieillissant. Mais c'est vrai que il y a la sagesse s'invite, comme le dit Paul Giron, parce que il y a quelque chose qu'on pourra jamais faire, c'est qu'on a une expérience de vie. Avec l'âge, il y a une expérience de vie qui est là. On a vécu, on a traversé des épreuves. On s'est d'ailleurs découvert à travers les épreuves. On a découvert aussi souvent des ressources que l'on a, une force intérieure. Cette expérience de vie, oui, elle est propre.
Elle peut conduire au désenchantement aussi.
Elle peut
vous conduire au désenchantement. Dans les mauvais cas, hein. Ayant des expériences heureuses ou malheureuses, on se dit bon, finalement, je sais tout ça, et puis
elle conduit au désenchantement. Peut-être si on n'a pas fait ce travail en amont, hein, qui est d'alléger les valises, parce que c'est vrai que si on a des valises de rancune et de regrets très lourdes, je comprends qu'on soit dans le désenchantement. Donc, c'est pour ça que c'est important, et il faut pas le faire trop tard, hein, d'essayer de se libérer de tout ce poids. Parce que, au fond, il y a quelque chose qui ne vieillit pas, c'est le désir. Le désir au sens large ne vieillit pas. Nous sommes des êtres vivants, donc désirants. Et c'est pour ça que le désenchantement, pour moi, c'est la conséquence d'un travail qui n'a pas été fait en amont. Je pense que la nature, notre nature humaine, qui est vivante, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de découvrir, qui est désirante, peut rester désirante jusqu'au bout. Et moi, je connais des gens justement de 95, 98 ans qui sont désirants à l'âge qu'ils ont. Regardez Stéphane Hessel, quand même, j'ai vu qu'il y avait ça, la BD sur Indignez-vous, la librairie, là, mais Stéphane Hessel qui disait, eh bien, moi, je sens que je suis désirant et je le serai jusqu'à ma mort. Et d'ailleurs, il disait, j'attends la mort avec gourmandise. C'est quand même extraordinaire de dire ça. Et il dit, je lui ai demandé pourquoi. Et il me dit, mais parce que ce n'est pas rien, la mort. Ça ne peut pas être rien. Et je signale que Stéphane Hessel était agnostique. n'était pas religieux, il était plutôt un peu bouddhiste. Donc ce n'est pas rien, la mort. Ça, c'est forcément quelque chose. Je vais le découvrir en
mourant. La curiosité ultime.
Je vais le découvrir. Voilà, la curiosité ultime.
Voilà, mais ça l'intéresse. C'était pas une pause chez lui, vous n'avez pas senti non. Ça comme ça. C'était...
Non.
Non, enfin, on peut faire le bravage comme ça, dire.
Non, c'était pas du tout une pause.
La mort, et je l'attends de pied ferme. En fait, enfin, vous connaissez la fable de La Fontaine sur le vieillard et la mort. Hein. Mais enfin, bon.
Mais là, c'était pas du tout une pause. Et peut-être aussi que la grâce a voulu qu'il meure. Sans même s'en apercevoir. D'ailleurs, peut-être qu'il s'en est aperçu, on ne le saura jamais. Mais il est mort en se levant un soir et en s'effondrant le long de son lit. Donc, voilà, comme ça. Voilà.
Alors, il y a une chose qui fait peur à tout le monde actuellement, c'est la maladie d'Alzheimer. Oui. Les chiffres sont assez importants. Il y a beaucoup de gens qui en sont frappés. Vous en parlez un peu, mais pour dire, finalement, il y a des raisons. Je connais peut-être des raisons qui mènent à la maladie d'Alzheimer. Si nous le savons, nous pouvons peut-être éviter, justement, ce dérapage. Alors, dites-nous quelques mots là-dessus, c'est intéressant.
Alors, d'abord, personne ne sait quelles sont les causes de la maladie d'Alzheimer. Ça reste, on cherche toujours, mais ça reste un mystère. Mais il y a des hypothèses. Alors, je suis dans le champ de l'hypothèse. Hein, je ne vais pas dire c'est ça. Et que je partage avec beaucoup de psys. Qu'est-ce que nous constatons? C'est que c'est une maladie dans laquelle progressivement on s'absente du monde par l'oubli jusqu'à ne plus reconnaître les siens, ne plus pouvoir parler. On s'absente. C'est une absence au monde. Alors on se dit, pourquoi s'absente-t-on du monde? Est-ce que ce n'est pas un refuge? Parce que on a peur de vieillir et de mourir. C'est une hypothèse. Peut-être qu'elle est vraie, peut-être qu'il y a d'autres causes aussi, hein, peut-être qu'il y a, c'est multifactoriel sans doute, mais si on regarde ça sous cet angle, on se dit qu'une prévention est justement, et c'est pour ça que je pense que mon livre est une prévention, c'est que si on n'a pas peur de vieillir, ni de mourir un jour, à ce moment-là, pourquoi chercher refuge?
Oui. En tout cas, donc c'est une hypothèse, mais au fond, de toute façon, si on applique ces préceptes que vous dites, on aura des chances évidemment de ne pas, tout cas, on écartera au moins une des causes potentielles possibles.
Voilà,
des causes de cette maladie.
Parce que peut-être qu'il y en a d'autres.
On aura tout fait en tout cas pour l'éviter. Hein, donc évidemment, si ça a des causes uniquement.
Sur le plan psychologique, je pense que ça peut être une des causes, mais il y a peut-être autre chose, bien sûr. C'est pour ça que je suis prudente, c'est une hypothèse.
Une hypothèse,
ouais. Voilà.
Alors, il y a donc ce livre. Alors, évidemment, je recommande évidemment de lire parce qu'il y a beaucoup de témoignages, d'expériences, d'échanges. C'est très riche parce que on est dans ces groupes. Vous nous emmenez un peu dans ces groupes de parole. Donc c'est intéressant. En même temps, vous en tirez la substantifique moelle. Et alors aussi, c'est un livre un peu politique puisque au fond vous adressez à nous tous, mais vous vous adressez aussi au pouvoir public. Hein,
oui.
Parce que alors je lisais dans les journaux avant-hier que le président de la République et le gouvernement voulaient donc encourager aux gens en ce moment leur majorité, la majorité à l'Assemblée nationale, à faire émerger enfin une loi sur le grand âge qui avait été promise lors du quinquennat précédent, qui est à nouveau sur la table, une loi qui pourrait aller peut-être dans le sens que vous préconisez, c'est-à-dire poser les briques d'une nouvelle politique de prévention, de prévention du mal vieillir,
oui.
et puis un moyen de préparer l'inéluctable vieillissement de la population. Bon, les chiffres sont là, on les connaît.
Oui.
En 2050, on aura, aidez-moi, oui, je vais dire une bêtise, mais
30% de la population aura, nous sommes 30% de la population qui sera dans le grand âge. Donc
quand vous dites le grand âge, c'est au-dessus de 80 ans.
Oui.
Hein. Voilà. Donc voilà, donc c'est comme des quantités oui. considérables. Alors on sera en meilleure santé, là vous le dites, la plupart d'entre nous, on sera quand même oui. mieux à 80 ans qu'il y a 50 ans. Mais bon, il n'en demeure pas moins que ça pose des problèmes massifs. Et donc là, il y a urgence quand même. Hein, alors, est-ce que vous avez des au-delà de ce livre, est-ce que vous avez un dialogue avec les pouvoirs publics? À quel niveau? Alors, et quel est votre...
Voilà, j'ai envoyé mon livre au ministre de l'Autonomie.
Oui.
Et j'ai su par sa conseillère qu'il souhaitait me rencontrer.
Ah, ben voilà une bonne nouvelle. Donc vous avez rendez-vous avec le... Ministre ou secrétaire d'État d'ailleurs.
Non, le ministre de l'autonomie, de la solidarité. C'est il y a la solidarité, santé, solidarité et l'autonomie. Monsieur Combes.
Mais ne faites-vous pas déjà partie de certains groupes de travail, commissions, groupes d'experts qui réfléchissent à ces questions?
Non, je fais partie d'aucun groupe. Je fais partie par contre d'un mouvement citoyen. Qui n'est pas une association ni un groupe, c'est juste des citoyens qui se sont rassemblés autour de ce qui s'appelle le CNAV, le Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Et il y a eu 4 fondateurs avec un. Je fais allusion dans ce livre avec une séance inaugurale qui a eu lieu au Théâtre du Soleil chez Ariane Mouchkine.
Ariane Mouchkine, 83 ans.
83 ans.
86.
Oui. Oui, en tout cas, très créative et
voilà.
Très...
Voilà une personne âgée qui déménage. Oui. Hein.
Et qui nous a dit, justement, elle nous a dit, elle nous a interpellés, on était 200 de plus de 60 ans au Théâtre du Soleil, elle a dit, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là, dans un monde dans lequel on a si peur de vieillir, dans lequel on a une image aussi désastreuse, mais quel manque d'imagination. Et elle lui dit, mais c'est à vous, justement, de nourrir l'imaginaire de vos enfants en leur montrant que vieillir, c'est pas seulement une histoire de dégringolade, hein, que c'est aussi, justement, une croissance, que c'est aussi une découverte de tout. Voilà. Elle nous a interpellés. Et ce CNAV, ce sont des personnes qui, en tout cas, voudraient agir au niveau des pouvoirs publics pour qu'aucune décision concernant les vieux, parce qu'on assume le mot, moi je l'assume.
Ah oui, ça de ce point de vue, vous êtes là, vous.
Je l'assume.
Hein, on parle pas de personnes âgées, on parle de vieux.
Bah hein. Oui, parce que je trouve que c'est pas un vilain mot et que si nous l'assumons pas, alors je vois pas comment on pourra changer l'image. Je pense qu'il faut être cohérent. Donc, il voudrait donc avoir interpellé les pouvoirs publics pour que les décisions qui concernent les vieux ne soient pas prises sans les vieux. Et le hashtag, c'est rien pour les vieux sans les vieux.
Voilà. Vous commencez le bouquin d'ailleurs en parlant de la du jeunisme. Oui. De l'anti-agisme, enfin bon, ça vous énerve. C'est quelle est l'extension de cette de est-ce que c'est vraiment la société
est comme ça? Oui, elle est jeuniste, elle est agiste. Vous savez, Robert Badinter, que j'ai rencontré il y a un an et demi,
Robert Badinter, 95 ans,
oui, m'a dit, vous savez, Marie, en France, on n'aime pas les vieux.
Je pense qu'il y a
un agisme, et je crois que justement, je pense que les boomers. C'est à nous de montrer que pourquoi on n'aime pas les vieux, parce qu'on a une mauvaise image, c'est tout. Parce que les jeunes ont cette mauvaise image, parce que on focalise toujours sur ce qui ne va pas et jamais on ne s'intéresse à tous ces vieux qui parlent de ce qu'ils vivent d'intéressant. C'est pour ça que je me suis dit le curseur, il est les projecteurs sont sur ce qui va mal, jamais sur ce qui est. Ce qui va bien et qui est différent, parce qu'on vit pas la même chose. Mon livre n'est pas du tout un livre qui dit il faut rester jeune à tout prix, justement. C'est pour ça que j'aime bien cette personne qui dit il faut justement devenir. Nous sommes là pour devenir. Et si on donne cette image-là, on va donner une autre image.
Avant de me mettre à la lecture de votre bouquin, j'ai réécouté Jacques Brel et j'ai réécouté les vieux de Jacques Brel, qui est une chanson que j'adore. Oui. Mais il faut bien reconnaître que la vision qu'il donne des vieux, qui est très, très tendre et très douce, est quand même un peu désespérée aussi. Est-ce que vous aimez cette chanson?
Ben moi, je l'aime. Oui, je l'écoute avec tendresse aussi. Mais c'est vrai que Jacques Brel.
C'est pas du tout là où vous voulez nous emmener, hein.
Mais Je veux dire, elle existe aussi, cette vieillesse-là, hein, je veux dire. Et d'ailleurs, dans mon livre aussi, je dis que, je veux dire, je parle aussi de la vulnérabilité, la fragilité que l'on peut rencontrer, vivre. Hein. Mais si, là encore, si intérieurement, hein, on a, si on a une vie intérieure qui est riche, qui est... si, moi, je connais des gens qui sont en fauteuil, qui sont, mais qui ont une joie intérieure. Voyez, tout ne se résume pas simplement à l'extériorité, au corps. Donc voilà, c'est je pense que c'est vraiment ça qui me semble important, c'est que c'est de se dire à l'intérieur de moi, j'ai des choses qui ne vieilliront jamais. C'est Sœur Emmanuel, ça c'est dans un autre livre, je l'ai pas cité.
Si
dans
si ce... si, vous citez Sœur Emmanuel.
Si je la cite.
Ah bon. Si si si, vous citez Sœur Emmanuel.
Parce qu'elle disait justement que c'est un âge où, quel que soit l'état dans lequel on est, on peut aimer et recevoir de l'amour. C'est vraiment quelque chose qui est.
Je suis content de retrouver sa citation parce que je vous promets que vous la promets. Oui. J'aurais dû mettre un petit sticker, oui, vous savez. Bon, ça fait rien. Je vais peut-être le retrouver avant la fin de cet entretien. Oui. Mais je vous ai demandé donc oui. La loi grand âge, donc qui se prépare, donc jamais sans les vieux. Hein, oui. Donc on espère évidemment que les députés de la nation vont aller se s'immerger un peu dans tous ces groupes de parole, aller chercher tout ça pour bon, y trouver les bonnes idées. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la loi grand âge, qu'est-ce qu'elle doit surtout elle doit se concentrer sur quoi? C'est quoi? C'est lutter contre l'isolement, faire beaucoup de prévention, réformer les EHPAD. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui, ben, y a tout ça. Je veux dire, réformer les EHPAD, il y a développer toutes les habitats alternatifs, hein, dont je parlais, bien sûr, s'occuper de la prévention. Et pas uniquement sur bien manger, bouger, rester en lien, mais aussi prendre en compte toute cette dimension aussi spirituelle au sens large, hein, que je développe. Il faut bien sûr lutter contre l'isolement et puis aussi écouter les personnes elles-mêmes, parce qu'elles savent ce qu'elles désirent et ce qui est bon pour elles. Et actuellement, on décide à leur place. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas.
Page 131. Ah, c'est sympa, ça, de dire. Sœur Emmanuel. Ah oui. Ah, il y a déjà des gens qui vous ont lu dans la salle. Sœur Emmanuel, citée dans La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller. Oui. Il faudrait que les personnes âgées prennent conscience que c'est leur mission d'aimer. Quel que soit l'état dans lequel on vieillit, on peut regarder, sourire, tendre la main, bénir. Et cela transfigure la vie. Hein, Sœur Emmanuel, 99 ans. Hein, voilà. Donc ça, bon, ça, non, donc je confirme que voilà, c'est quelqu'un que vous citez beaucoup de gens d'ailleurs. Hein, vous citez Teilhard de Chardin, vous citez Stéphane Hessel, vous citez, oui. Vous n'avez pas cité Badinter, mais vous en avez parlé. Mais vous citez un tas de gens qui parlent magnifiquement de la vieillesse. Donc il faut évidemment y plonger. Alors vous avez déjà commencé donc à faire un peu la promotion de ce livre. Quelle réception avez-vous lorsque vous parlez de ces bénéfices de la vieillesse, lorsque vous essayez de répandre l'idée que c'est une chance? Est-ce que vous avez des retours sympathiques, des retours encourageants, ou est-ce que vous heurtez à un scepticisme?
Alors, chez les plus de 60 ans, j'ai vraiment des retours encourageants. C'est-à-dire que je pense que les personnes ont compris que c'était important de changer l'image. Hein. Par contre, c'est vrai que hier matin, j'étais sur CNews dans une émission de Pascal Praud. J'ai senti un peu d'incrédulité, hein, aussi chez les personnes qui étaient là.
Et qui avaient toutes moins de 60 ans.
Non, pourtant, je pense, oui, enfin certains, mais je pense que c'est pour ça qu'on a une responsabilité. Notre génération a vraiment une responsabilité qui est de, et ça se fera pas comme ça d'un coup de baguette magique, évidemment. C'est dans les années qui viennent de changer l'image, parce que C'est, sinon, oui, les jeunes sont encore avec une image comme ça, un peu de, d'Épinal, qui est que bah, du moment que le corps vieillit, je veux dire, tout se déglingue. Voilà.
Mais en tout cas, alors ce qui est vraiment ce que j'ai beaucoup apprécié dans à la lecture du livre, c'est que, indépendamment des préceptes et des conseils que vous pouvez donner, vous mettez la barre assez haut. C'est-à-dire que on n'est pas dans les recettes de cuisine là. On est plutôt dans les conseils d'ordre spirituel, hein, au sens large. C'est-à-dire oui, tout ce qui concerne l'être, le regard, le cœur, oui, le sens. Oui. Voilà, oui. Vous insistez essentiellement là-dessus. Évidemment, c'est évidemment oui, le secret, s'il y en a un, c'est vraiment de se tourner vers tout ça, qui n'est pas toujours visible, oui, mais qui est beaucoup plus évidemment encourageant, rafraîchissant, que quelques recettes que l'on pourrait oui, appliquer facilement.
C'est une aventure spirituelle au sens large, bien sûr. Hein, c'est sûr, parce que alors bien sûr, je vais citer Saint Paul, qui est évidemment alors là.
Ah oui, vous citez Saint Paul, vous citez lorsqu'il parle de l'homme intérieur et
oui,
de l'homme extérieur.
Parce que là, il dit tandis que notre homme extérieur s'en va en ruine. Bon, ça correspond à cette femme qui dit tout se délite. Bon, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ben, je crois qu'il a tout dit. Oui, l'homme extérieur et même l'homme extérieur, ça veut dire qu'on sent bien que les personnes, plus elles avancent en âge, plus finalement, on n'a plus rien à prouver. On a notre place dans le monde, c'est plus ça qui compte. Hein, on sent bien que c'est... Alors, l'homme intérieur, c'est un concept très vaste, et tout le monde ne met pas la même chose derrière ce mot. Hein. Mais c'est vraiment... C'est pour ça que je dis qu'il faut voyager vers son intériorité, se dire, mais qui suis-je? Quel est mon mandat céleste, je dirais? Quelle est ma tâche sur Terre? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui importe? Qu'est-ce qui est l'essentiel? Ce sont toutes ces questions...
Que dois-je transmettre aussi?
Que dois-je transmettre? Mais ce sont des questions auxquelles chacun doit répondre, je dirais, intimement. Ce sont pas des... Il ne peut pas y avoir de réponse de l'extérieur. C'est vraiment une réponse intime que chacun doit fournir à cette question. Et c'est ça qui donne, justement, je veux dire, c'est là aussi que vous avez des personnes qui disent, moi j'ai l'impression justement de... Vraiment, que c'est pas une descente, c'est une envolée.
Et alors, vous faites écouter les paroles de ces octogénaires, de ces nonagénaires, oui, parfois de ces centenaires, oui, à des sexagénaires ou des septuagénaires, oui, qui avancent, oui, en âge. Oui. Mais c'est aussi lisible par des quinquagénaires, des quadragénaires, oui, des trentenaires, et même peut-être des jeunes. Hein. Il y a des jeunes qui vous parlent de ça, non, qui se posent déjà ce type de questions, finalement. Il n'est jamais trop tôt pour penser à sa vie future.
Alors, je ne sais pas si ça les intéresse vraiment, je dirais. Mais bon, on peut. Mais ceci dit, moi, je parle de ça avec une petite fille qui a 24 ans et elle m'écoute. Je sens que oui, elle est intéressée par ce voilà. Et ce qu'elle me dit, c'est ben, moi, j'ai plutôt besoin de sentir que tu es heureuse à ton âge et que tu envisages les années qui viennent comme quelque chose d'heureux. Elle me dit parce que c'est comme ça que tu seras légère pour nous.
Ouais, voilà. Évidemment, ce qui fait peur aux plus jeunes, c'est de voir leurs aïeux
oui,
décrépir.
Bah, bien sûr.
Alors que s'ils les voient effectivement, s'ils les voient pleins de vie, malgré leurs souffrances ou malgré leurs infirmités ou leurs limites, finalement, ça va pas leur faire de peine.
Oui. Absolument. C'est pour ça que je pense qu'on a une responsabilité vis-à-vis de nos enfants et nos petits-enfants.
Hein, de bien vieillir.
Bah de faire tout ce qu'on peut. Bon, c'est comme ça qu'on va le dire. Hein, tout ce qu'on peut, effectivement, pour aller vers une vieillesse heureuse, féconde, intéressante.
À condition d'éviter aussi la souffrance. Et là, voilà. C'est ça aussi. Bah, enfin bon, il est peut-être un peu tard pour en parler. Mais en tout cas, voilà. Donc je vous encourage. Je vous encourage, donc nous parlons depuis une heure, donc je vous remercie beaucoup d'avoir écouté Marie de Henzel, je la remercie encore d'être venue, et donc je vous encourage à lire à lire L'aventure de vieillir, donc chez Robert Laffont,